Le camion poubelle est prêt pour aller vider toutes les poubelles de la ville. Allons-y les enfants, suivons-le.
What's your message to world leaders today?
How dare you?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Ce soir, l'émission vous est présentée par Culture Poub et c'est une émission assez spéciale. Une émission consacrée aux travailleurs et aux travailleuses des déchets. Une émission réalisée entièrement à partir d'interviews prises sur le vif, sur le terrain, sur des piquets de grève, sur des décharges et des dépôts. Vous entendrez parler des éboueurs, conducteurs d'engins, représentants syndicaux, une éboueuse. Ces propos ont pour la plupart été recueillis et mis en forme par Sarah Marano. Sarah fait partie du mouvement éco-syndicaliste, un réseau de militants qui cherche à créer une convergence entre écologistes et syndicalistes et qui se structure en trois branches, énergie, éducation et déchets donc. Recueillir et diffuser la parole des travailleurs et travailleuses des déchets, c'est une des missions que s'est donné ce collectif. Et pour commencer, Sarah nous amène sur le piquet de grève d'un centre de tri Veolia à Gennevilliers.
La définition de la poubelle, c'est quoi? Donc, c'est de l'argent invisible.
La définition de la poubelle?
Ouais. Les gens, ils voient la poubelle, ils n'ont pas l'importance. Mais c'est quoi? C'est de l'argent invisible. Si quelqu'un il met 100 000 euros dans un sac poubelle, il le pose, il n'y a personne qui le touche. Sauf le RIT. Sauf nous. C'est vrai ou faux?
Le 11 janvier 2022, on a participé à un piquet de grève sur les sites du centre de tri REP Veolia de Gennevilliers. Le piquet a été organisé par l'Union locale CGT de l'Est du Val d'Oise. La grève voulait surtout exprimer la solidarité avec Ilyes El Afghani, ouvrier et délégué syndical de la déchetterie de Bouqueval. Ilyes a été licencié avec un prétexte. Il avait déchargé de déchets personnels dans la déchetterie, un usage courant chez les travailleurs des déchets. Selon ses camarades de la CGT, Ilyes El Afghani a été licencié surtout pour donner un signal. Les ouvriers des déchets ne doivent pas s'organiser politiquement pour des meilleures conditions de travail. Pourtant, un mouvement dans le secteur semble être commencé. On est allé à la rencontre des ouvriers grévistes et on a essayé de parler avec eux des déchets, d'organisation du travail dans leur secteur, ainsi que d'écologie.
Et tu veux un petit café?
Ah ouais?
Bravo. Merci beaucoup.
Bah ouais, c'est génial. Si t'en as un, c'est parfait. Hein.
Bon. Ah ouais, bah carrément.
Si tu veux.
Non, je t'en prie, après je trouverai un verre. Mais de toute façon, sinon je vais aller.
Ah, toi t'as ton. Ouais,
je vais aller à la machine à café là-bas. Sinon,
j'ai des verres à pied là-bas. Ouais, après on peut faire tourner. Hein. Oh, bah, moi j'ai pas le Covid, je suis testé.
Ah ouais?
Moi je viens d'avoir le Covid, donc c'est bon.
On est à la zone industrielle de Gennevilliers. Et on est dans un centre de dépôt de la REP. Qui est une filiale de Veolia où ils traitent les déchets de toute l'île de France. La REP, c'est une filiale de Veolia. C'est une BU de Veolia, c'est une business unit de Veolia.
J'étais à la famille Rochon.
Et elle a été à la famille qui?
Rochon, R-O-C-H-O-N. Rochon. Et en fait, elle a été rachetée par Veolia il y a plusieurs années maintenant. Donc du coup, bah, il y avait une culture famille, qui fait que ce soit un entrepreneur qui achète le terrain, qui fasse un centre de stockage, etc. Ils faisaient aussi de la collecte et du transfert en semi, en complément de leur activité de stockage. Il y a eu une cession. Veolia a fait une cession de cette activité en 2015. Donc, la REP, une de ses particularités, c'est qu'elle a un des socles sociaux les plus élevés de l'ensemble des sociétés de Veolia Propreté en Ile-de-France, voire de France, car elle fait beaucoup de bénéfices à travers son activité de stockage de déchets, parce qu'elle facture à la tonne. Et, du coup, c'est une entreprise où les salaires sont plus élevés que les autres sociétés. Donc, ils ont également, au fur et à mesure, externalisé certains métiers, comme par exemple le tri, ou par exemple, les postes d'agent de bascule, par des emplois de la société Generis. Et en fait, le socle social de Generis est plus faible que celui de la REP. Donc il y a aujourd'hui une tension sociale sur le site de la REP Gennevilliers qui est très dense, très élevée, du fait de la coactivité entre les salariés de la REP et les salariés de Generis.
Mais Generis, pardon, c'est comme une société prestataire de services comme...
Generis est une société spécialisée dans le tri de la collecte des déchets ménagers,
okay.
C'est-à-dire notamment la collecte sélective.
C'est des CDI, des salariés de Generis, ou c'est des intérimaires
C'est principalement des CDI qui sont mis à disposition sur le site de la REP. Je disais qu'en fait il y a une tension sociale très dense du fait en fait de cette coactivité entre les salariés de Generis et de la REP, surtout quand il y a des métiers en commun. Parfois on peut avoir par exemple le poste d'agent de bascule ou bien le poste de conducteur d'engin. Et en fait on peut constater en fait cette composition, cette coactivité, elle est visible à travers une organisation raciale du travail, puisque les salariés qui ont les plus bas salaires et qui font le tri dans la poussière, ils sont de couleur noire, et les salariés de la REP sont principalement de couleur blanche. En tout cas, à Gennevilliers, ça a été un de mon principal étonnement, en fait, en échangeant avec les salariés. Et ça pose un réel problème.
Mais il n'y a pas d'intérimaire.
Il y en a, mais pas de manière significative comme ça pourrait être le cas dans la collecte des déchets ménagers. Quoi.
Pas mal de CDI dans le déchet, quoi. Même sur les postes durs. Là où, tu sais, dans la logistique, tu auras des intérimaires. Dans le déchet, il y a pas mal de CDI. Quoi.
Ouais, on a une activité qui est plutôt constante en fait. On a des pics de production de déchets et des périodes où il y a moins de production, mais il y a toujours de la production de déchets de manière constante tous les jours de l'année.
Il n'y a pas des pics de production de déchets.
Quand Amazon elle vend plus, y aura plus d'emballage pour la collecte sélective par exemple.
Ah.
Et en fait par gisement de déchets on peut avoir des fluctuations dans la production de déchets. Il y a une base qui est toujours constante. Quand il y a des périodes estivales, les déchets vont migrer vers le sud. On a des périodes de montée, de descente en fonction du contexte géographique et des typologies de déchets. Et là, pendant les périodes de fête, on va avoir un peu moins de déchets. À la sortie, on va avoir un peu plus. Mais en effet, il y a toujours du déchet et ça reste une activité existante. D'où la nécessité pour assurer une continuité de service avec du personnel qualifié d'avoir des CDI.
Yeah. les chars, quitte les chars. Les paratus leur bavent aussi dans les phares. Et ta belle-mère rentre dans le frigo pendant que t'auras pu ramener ton chico. Allez! Dans les casernes, on va jusqu'au flaque. Un petit poisson.
En théorie, bah, les déchets enfouis devraient être des déchets ultimes, c'est-à-dire un déchet qui ne peut plus avoir de réaction ni chimique, ni biologique, enfin, une matière inerte. Et, or, on peut encore constater de diverses matières qui sont enfouies, et donc au niveau environnemental, c'est limite. Et en parallèle, le délégué syndical CGT, il est en procédure de licenciement parce qu'il a déposé quelques pneus en passant par l'accueil, en passant par l'agent d'accueil, par la hiérarchie, pour déposer ses déchets personnels, ce qui est un usage en fait dans la société de la REP. Chez eux, quand ils travaillent et quand ils ont un peu de déchets, et s'ils font un peu de travaux chez eux, c'est un usage, ils y travaillent, donc ils apportent leurs déchets dans leur propre décharge, quoi. Et en fait, ils ont voulu faire un cas d'école, un cas d'exemple à travers le délégué syndical CGT. Au lieu d'accompagner au changement, accompagner en dénonçant les usages, en accompagnant les salariés avec les organisations syndicales à un changement de culture. Et ça a été très, très radical. Ils ont voulu faire une procédure de licenciement pour passer un message à tous les salariés. Alors, ce site-là, il y a les revendications des salariés de Generis d'avoir le même socle social que les salariés de la REP. Donc, et ils souhaitent intégrer la société REP pour bénéficier des mêmes statuts sociaux, étant donné qu'ils sont sur le même site et en fait que leur travail permette le cœur d'activité de la REP. Sans le tri, ils ne peuvent pas faire de transfert. Et sans le transfert, ils amoindrissent le stockage, quoi, l'optimisation pour en vue du stockage. Et donc leur revendication, c'est d'arrêter la mise en concurrence des salariés entre eux à travers des différents socles sociaux. Et
Et ils ont aussi de nombreuses revendications autour de la pénibilité et autour de la revalorisation des salaires. À Bourval, on est encore dans un autre contexte. Parce qu'il n'y a pas de tri comme ici. Ici, il y a beaucoup de tri. On doit avoir au moins une vingtaine de salariés qui font du tri dans des conditions vraiment déployables. Ils sont dans des...
Antoine, j'ai une bonne nouvelle.
C'est un autre temps. Le conflit de la REP, ça fait près de 8 mois maintenant que ça commence à prendre de l'importance, parce que la procédure de licenciement à l'encontre de ISL Afghanit, délégué syndical ou CGT de la REP, elle a été refusée par l'inspection du travail de manière implicite, puisqu'il n'y a pas eu de réponse de sa part. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi il y a un recours auprès du ministère du Travail. Sachant que le salarié en question, il a plus de 17 ans d'ancienneté, il n'a jamais eu aucune convocation, aucun problème disciplinaire, exemplaire dans son travail. Et juste, il effectue ses prérogatives dans l'intérêt général des salariés. Et du coup, en fait, ça gêne Veolia. Surtout dans une société comme la REP qui engendre des bénéfices et dont elle n'a pas l'habitude, en fait, où il y a des organisations syndicales qui construisent avec son organisation syndicale. Ils avaient l'habitude d'avoir des organisations syndicales plutôt refermées sur elles-mêmes au sein de l'entreprise de la REP, sans communiquer à l'extérieur de leur rémunération, de leur socle social, de leurs conditions de travail, de leurs points forts et de leurs problèmes également. Et du coup, d'avoir un délégué qui casse cette cloison vers l'extérieur, ça les gêne un petit peu.
Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici.
Dans mon bas, sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac.
Attention qu'elle se met. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était Manatou qui a inventé le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout. Moi, je trouve que c'est de dégueulasse. Wesh. Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, j'suis pas capable.
Metal vert, plastique. Carton papier daté, metal vert plastique, carton papier daté,
metal vert plastique, carton papier daté, metal vert plastique, carton papier daté.
Ils sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
Ton bac. C'est qui est ton bac? Watch ton bac.
C'est cyclable plusieurs fois, mais c'est pas ce que ça veut dire être recyclable. Oh là là, pointe du doigt, pierre fonçable, fais ton smat, fais ton frère. Pense trois fois avant de pitcher dans ton bac des jouets.
Oh oh!
Des jouets.
Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. Pleu et flétrie.
C'est non.
Pneu de camion.
C'est non.
Matériaux de camp.
Construction. C'est non.
Les couches qu'elles soient pleines.
Ou non.
C'est non.
Ça pue.
Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde.
Oh oh.
Mets du respect dans ton.
ton back. Check ce qu'il y a dans ton back. T'as perdu ton back. C'est qui est ton back? Watch ton back.
Carton papier daté, métal vert plastique. Carton papier daté, métal vert plastique. Carton papier daté, métal vert plastique. Carton papier daté.
De retour sur Fréquence Paris Purel 106.3, vous écoutez Zoom Écologie et on vient d'écouter À la claire ensemble, mets du respect dans ton bac, une chanson dédicacée aux travailleurs travailleuses des centres de tri. Et justement, avant, nous écoutions l'interview d'un représentant syndical sur le piquet de grève de centre de tri de Gennevilliers, de Veolia à Gennevilliers, nous expliquait donc pourquoi il soutenait un représentant syndical licencié pour l'usage de la décharge à des fins personnelles. Nous repartons aussitôt direction Clichy où Sarah Marano a recueilli les propos d'éboueurs en grève sur leur dépôt à Clichy, un dépôt Suez.
Le 18 janvier 2022, on a été sur le piquet de grève du dépôt Suez de Clichy, d'où partent les camions qui font la collecte des ordures ménagères du secteur de Saint-Denis et Saint-Ouen. Ici, on a demandé aux grévistes présents sur place, syndiqués ou pas, quelles étaient les raisons de la grève des éboueurs de Suez.
On est aujourd'hui mardi 18 janvier 2022. En fait, je suis d'origine serbe et dans le métier des ordures ménagères, je travaille depuis 22 ans. J'étais embauché d'abord chez Onyx. Après, en fait, notre société est passée chez Veolia. Ils ont changé le nom. Et du coup, là, je suis chez Suez depuis 6 ans. Et voilà, je suis conducteur de benne et je travaille sur le secteur de Saint-Denis. Ici, le dépôt, ça se trouve à Clichy. Du coup, là, en ce moment, on fait une grève générale puisque nos délégués syndicaux, ils n'ont pas réussi à avoir un accord d'augmentation de salaire. Ils sont pas retrouvés une entente avec le DRH, avec les grands patrons. Du coup, voilà, ils n'ont pas voulu accepter les demandes de syndicats. Je veux préciser en fait que je ne suis pas un délégué syndical. Je suis juste un ouvrier qui travaille et c'est tout, voilà. Trois fois par semaine, je commence à 4 heures et trois fois par semaine, je commence à 5h30. Du coup, j'ai déjà dit que je travaille sur le secteur de Saint-Denis pour le ramassage des ordures ménagères. Du coup, le matin, on part sur notre secteur. J'ai deux reapers qui sont avec moi pour ramasser les conteneurs. Et voilà, c'est en fait notre travail, c'est de sur notre secteur d'enlever les conteneurs des ordures ménagères.
Et après, les conteneurs arrivent ici, sur ce site.
Ce qu'on ramasse, les ordures qu'on ramasse, ça fait à peu près entre 12 et 20 tonnes, ça dépend de la journée de travail. Et tout ça, en fait, ça va à la décharge. La décharge, c'est en fait qui se retrouve à Saint-Ouen, à Saint-Ouen-Sictum, voilà. Du coup, ces ordures, en fait, ils sont dans une usine qui fait brûler ces déchets. Et ces déchets, en fait, sont utilisés pour faire l'électricité, le chauffage. Il y a aussi des déchets de recyclage que c'est une autre équipe qui font en fait, qui ramasse des recyclage plastique et tout ça, le carton, enfin bref, voilà.
Ah, vous touchez pas à ça?
Non. Du coup, ça, en fait, nous, on travaille 6 jours dans la semaine. Et le sélectif, il fait en fait une fois par mois. Le sélectif, il fait une fois par mois. Et voilà, du coup, c'est une autre équipe qui fait ça.
Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui?
Dans toute la France où il y a des agences de Suez, aujourd'hui, ils sont en grève nationale pour revendiquer ce que je vous ai dit au début, pour notre salaire. Et pour notre protection en fait de la sécurité de, parce que de notre travail il y a beaucoup de qu'ils arrivent des accidents. Il y a pas longtemps, il y a 2 mois de ça, qu'on a perdu un collègue qui était en fait mortellement accidenté par rapport à des voitures qui ne respectent pas en fait dans la circulation. Dès qu'il y a une benne de collecte qui arrive, alors tout le monde nous klaxonne, on gêne la circulation. Et d'ailleurs, c'était comme ça que notre collègue qui a perdu la vie par rapport de cet accident dans la circulation, il y avait 2 voitures qui sont entrées en arrière de la benne et malheureusement, ils ont tué notre collègue. Et par rapport de ça, il y a aussi la pénibilité de travail que non responsable de l'entreprise, il nous donne pas assez de en fait la possibilité en fait de la sécurité dans notre travail. Quand ça nous arrive d'avoir des problèmes comme ça, ils sont jamais sur le terrain pour en fait pour résoudre les problèmes. Quand on entre dans une cité pour ramasser les poubelles, alors les riverains, tous ceux qui habitent dans les cités, ils sont plaints en fait qu'on fait le matin, puisqu'on commence du bon heure, qu'on fait beaucoup de bruit, alors ils se disent qu'ils ne peuvent pas dormir, et voilà, alors des fois on est attaqué à cause de ça, ou si par exemple on les gêne de prendre leur voiture et de partir au travail, parce qu'on est en train de les bloquer, puisqu'en fait pour le ramasser un lieu de collecte, des fois on reste 5-6 minutes, alors les gens ils n'aiment pas quand ils sont bloqués. Par rapport à ça, on pense en fait que nous on n'est pas très bien payés et surtout que pendant les mois de confinement de ce virus COVID-19, on a tout le temps travaillé, ça veut dire on n'est jamais été absent et voilà. Et du coup, juste quand on a touché juste une prime que en fait l'État qui nous a donné, qui a proposé, qui nous donne, en fait c'était à la fin de 2019 qu'on a touché 1 000 euros cette prime, et depuis on n'a rien du tout eu jusqu'à maintenant. Et par rapport d'inflation, c'est pour ça que cette grève en fait, on a pensé, enfin nos délégués syndicaux, ils ont pensé qu'on doit en fait faire quelque chose justement, qu'on puisse avoir une récompense de notre travail et d'avoir en fait un peu plus par rapport d'inflation que vous savez qu'elle est entre, d'après l'État qui disent 2,5%, et nous ce qu'on entend c'est plus c'était plutôt vers le 5-6% de l'inflation pour 2021, mais pour cette année d'après ce qu'on entend que ça va être plus de 10%, et vous savez que l'électricité qui augmente, le gaz qui augmente, tout qui concerne notre vie, ça augmente. Et voilà, nos délégués, ils sont décidés de faire ce mouvement, de faire une pression sur nos dirigeants, voilà, exactement, pour qu'on puisse avoir un peu plus, dirais-je, l'argent pour notre vie.
C'est aussi quelque chose qui vient après la crise du Covid, parce que vous faisiez partie de ceux qui ont toujours continué à travailler.
Comme tous ceux qui ont travaillé dans les hôpitaux et tout ça, on était toujours en première ligne. On n'a pas eu un retour pour dire voilà, on vous remercie pour votre travail, et on justement par rapport à ça, on voudrait vous donner enfin quelque chose de plus, comme d'ailleurs tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux et tout ça, ils ont déjà, par rapport à ça, l'État, ils ont décidé de leur augmenter le salaire, mais pour nous, puisqu'on est dans le privé, il n'y a personne qui pense à nous, sauf nos syndicats, en fait, qui disent, voilà, il faut qu'on se mette voilà, debout et de dire, voilà, nous aussi, on voudrait, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, de donner quelque chose en plus par rapport à notre engagement et de notre, en fait, service qu'on a rendu pour le peuple, quoi.
Le jour se lève sur la ville, sur les maisons aux volets clos.
La rue dort encore immobile, du garage au petit caboulot.
Un volet claque, un bras de femme s'étire, on entend un soupir.
La rose du ciel sur Paname lentement commence à s'ouvrir.
Au bord du trottoir pêle-mêle, il n'y a rien que des poubelles. La vie du monde, la vie des gens, ses plaisirs, ses désagréments, ça finit toujours là-dedans. Poubelle, les vieux cartons, les pots cassés, tous les trucs qu'on a dû laisser, épave grise du passé. Poubelle, le papier graisseux du pâté, la carcasse du poulet sauté, tout ce qu'on n'a pas pu boulotter. Poubelle, un corsage, un chapeau d'étain, l'ombre d'un soulier de satin et le fantôme d'une ombrelle. Poubelle, poubelle, voilà notre offrande au matin. Sentiment, on s'aime, on s'adore.
Amour, toujours fidélité.
Puis la passion se décolore, un voleur va tout emporter.
Il y en a toujours un qui pleure, il ouvre ses tiroirs secrets.
Il relit des mots qui l'écœurent.
Toi, moi, nous deux, larmes, regrets. Non, vois-tu, la vie n'est pas belle.
Fous-moi tout ça dans la poubelle.
Chérie, comme c'est loin demain, tu prendras ma main dans ta main. Mon Dieu, que tous ces mots sont vains. Poubelle,
j'ai rêvé de toi cette nuit. Ton corps était comme un beau fruit. Amour, mensonge, je détruis. Poubelle,
ta photo, ce petit mouchoir, ce collier, ce ruban noir que j'ai trouvé dans un tiroir. Poubelle, ange, démon, fausse vertu, aux femmes qui donc étais-tu, au toit qui a brisé mes ailes. Poubelle, poubelle, où gît tout un bonheur perdu.
Déchets du monde et de la gloire, empires et faux conquérants,
c'est ici que pourrit l'histoire avec ses rois et ses tyrans.
De tant de grandes aventures, que reste-t-il au point du jour?
Un peu de cendre, un peu d'ordure,
messieurs les grands, à qui le tour? Vanité des choses mortelles, 20 ans d'histoire à la poubelle. Tel est le monde d'aujourd'hui, verrons-nous le bout de la nuit, peut-être car au ciel voici, fidèle, le soleil joyeux et dispo, qui fait claquer tous ses drapeaux sur les camions municipaux, modèles, qui s'en viennent gloire ouverte, avec leurs gars au bras de fer, vous videz dans un bruit d'enfer, poubelle. Afin qu'au cadeau de Paris, de tous ces vieux déchets nourris, victoire de la vie éternelle. Poubelle, poubelle, il pousse des quartiers fleuris.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, vous écoutez l'émission Zoom Écologie et vous venez d'entendre une chanson de Gilles, Poubelle. Poubelle, c'est bien le thème de cette émission, puisque nous écoutons des interviews recueillies par Sarah Marano, des interviews de travailleurs des déchets, et juste à l'instant, nous écoutions l'interview d'un éboueur en grève contre donc son employeur Suez. Il travaille au dépôt de Saint-Ouen et il nous racontait l'absence de revalorisation des salaires face à l'inflation et aussi l'absence de reconnaissance face au travail et de tous ses métiers durant la crise du Covid. Nous continuons avec donc ce collectif de travail, donc les éboueurs Suez du dépôt de Saint-Ouen. Mmh.
Ah ben, je m'appelle Vlado et je travaille au secteur Saint-Denis, mais la société actuelle, qu'est-ce qu'on travaille, c'est Suez. Okay. Où précédemment, je travaillais chez Veolia depuis 23 ans. Et ici, on est depuis 1er mars 2016. Et je travaille sur Saint-Denis, 4 jours ramassage d'ordures ménagères et 1 jour de ramassage de sélectifs. C'est trop pénible, quoi, tu vois. Nous, on commence pareil à 5 heures du matin. Et c'est, voilà, là, peut-être à Paris, c'est différent, mais moi, je suis sur Saint-Denis 29 ans. Et toujours un des problèmes, c'est pas comme avant, mais maintenant, dernier temps, c'est plus en plus compliqué, quoi.
C'était mieux avant?
Avant, c'était beaucoup mieux, quoi, tu vois.
Pourquoi?
Maintenant, dernière dizaine d'années, maintenant, se trouve Saint-Denis où beaucoup de constructions, il y a trop de monde, et les gens, ils respectent pas le stationnement, il y en a des endroits cités, endroits en passe, très compliqué, il y a des voitures mauvaises en stationnement et tout ça, quoi. Et chaque fois, comme par hasard, c'est nous qui gênons.
Et donc, en fait, avant, c'était mieux parce qu'il y avait moins de gens qui habitaient Saint-Denis et
c'est
c'était
ça.
Moins...
Exactement, c'est ça. Et depuis la construction du Stade de France, et jusqu'à présent, là, c'est une explosion en construction. Ah. Il y a trop de monde et c'est tout reconstruit. Il y en a tous les grands boulevards, qu'est-ce qui c'était avant et tout ça. Maintenant, tout est nouvelle circulation, qui la piste cyclable. Il y en a des voies, des bus, des taxis. Et pour nous, il ne reste pas grand-chose. Pas grand-chose. Et chaque fois, c'est nous qui gênent. C'est nous qui gênent sur n'importe quelle voie.
Ouais.
Et comme ça, dernièrement, il y en a 3 mois de ça, il avait un accident. On a perdu un reaper qui était fauché par une voiture.
Et malheureusement,
il est à Saint-Denis, toujours à Saint-Denis. Et malheureusement, il est décédé. Voilà.
Tu as dit que la population a augmenté, mais les employés dans le secteur de déchets n'ont pas augmenté. Il n'y a pas eu des embauches, vu qu'il y avait plus de gens, plus d'ordures ménagères. Il n'y a pas plus de
mais
personnel.
Si, non, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais par rapport à ça, il y en a des grandes cités, il y en a des autres endroits, ils sont faits les poubelles qui sont enterrées, quoi. Il y en a de plusieurs bennes qui ramassent ça, donc quelques côtés, on a soulagé un peu, quoi.
Et, ok.
Comment je vais expliquer, parce qu'il y a des grandes cités, c'est pas des poubelles, mais c'est des grands stockages. Il y en a des bennes spéciales qui viennent pour ça, pour ramassage. Ah.
Mais donc, vos conditions de travail depuis 10 ans n'ont pas changé?
Mais non.
Les salaires n'ont pas évolué?
Moi de ça, salaire.
Et ce que mon collègue il a dit, en fait, augmentation d'embauche, il n'y a pas eu tellement. C'est surtout que nous, sur les secteurs, au lieu d'embaucher plus des ouvriers ou d'engager plus des bennes pour collecte, ce n'est pas ça, en fait, que la direction qui fait. Ils nous augmentent le secteur de travail. Ça veut dire, avant, on faisait, par exemple, travail une tournée, enfin à peu près collecte de 10 tonnes. Maintenant, on fait collecte presque 20 tonnes. Ça veut dire, des fois, on est obligé de faire 2 tours ou 3 tours. Et voilà. D'après l'ancien président Sarkozy qui a dit il faut travailler plus pour gagner plus, nous, on travaille plus, mais on ne gagne pas plus.
Okay.
Voilà.
Pourquoi vous êtes en grève aujourd'hui?
Parce que tout a augmenté et le salaire, il est toujours stagné.
Ok. C'est quoi qui a augmenté?
Les cigarettes, le gasoil, l'éclair, c'est pas pareil. Avant, les gâteaux, c'était 1,20€. Maintenant, c'est 1,80€.
Ok.
Le pouvoir d'achat, vous dites?
Oui, le café, il était 1€. Le café, 1€. Après, 1,10€. Après, noisette, 1,20€. Après, le café, 1,20€. Noisette, 1,30€. Maintenant,
alors,
noisette, 1,40€.
Et alors,
c'est vrai, hein? Non, c'est un travail, c'est un peu dur. Mm-hmm. Il y a 15 tonnes par jour. Ça, c'est l'OM. C'est le verre, c'est comme ça, le verre. Parce que que nous, nous la retraite, elle est zéro. Hein. Nous, nous c'est énorme, pareil.
Moi, je fais le carton, et au niveau du carton, c'est physique. Moi, j'étais mono-ripper à l'époque, voilà. J'étais chauffeur et ripper en même temps. Là, maintenant, on est passé à deux rippers, donc je descends beaucoup moins. Mais maintenant, c'est des gars qui sont derrière, on ramasse tout par terre. Donc, c'est pas.
On est en 2020. Il y a, le camion, il est équipé, tout équipé. Des fois, on ouvre le conteneur, il est vide et on trouve le sac par terre. L'autre fois, ils ont trouvé ici les moulinets un bébé. Hein. Parce que la poubelle, ça joue. Hein. Mais si la poubelle, ils font grève.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec le Covid, on s'est rendu compte que votre travail était essentiel, alors que...
On a été pas mal applaudi au départ, maintenant on se fait insulter.
C'est quoi cette histoire des deux mondes?
L'histoire des deux mondes, c'est qu'il y aura un monde de riches, comme avant, comme aujourd'hui, toujours les riches, ils veulent, ils ont leur temps. Et les pauvres, ils n'ont pas leur temps, ils doivent acheter leur temps pour vivre. Pourquoi? Parce que... Le monde continue à évoluer, mais il évolue à l'envers. Le riche, il est là pour avoir tout ce qu'il veut par les machines, par les robots, par ceci, par cela. Les pauvres, ils vont faire quoi? Ils vont rester loin du monde des riches. Donc, ça veut dire qu'il y aura deux mondes différents.
Mais donc, toi, tu penses que l'écologie, c'est qu'un enfumage des riches?
Voilà, c'est politique. C'est politique.
Mais tu ne penses pas qu'il y pourrait y avoir une écologie des pauvres aussi?
L'écologie des pauvres, c'est quoi? On ramasse la poubelle, on fait le tri sélectif, ceci, cela. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont brûler ce qu'ils vont brûler pour avoir l'énergie. Ils vont fermenter ce qu'ils vont fermenter. C'est comme les organes vivants pour avoir le gaz.
Ouais.
Et tout ça, ça revient à l'ancien. Quoi. Tout ça. Et après, eux, ils nous revendent ça. Ce qu'on jette, non, ils nous revendent ça d'une autre façon. Vous voyez? Et nous, on achète ce qu'on a jeté. Quoi. Et nous, après, on rachète pour construire, pour l'électricité, pour le gaz, pour vivre, quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, il y aura deux mondes différents. Ça continue à faire jusqu'à que il y aura deux mondes. Je ne sais pas comment ils vont faire. L'écologie, c'est soit on revient à l'ancien, on vit à l'ancien. Ça, c'est l'écologie. On ne parle pas de l'industrie, on ne parle de rien du tout. Il n'y a pas d'innovation. Quoi. Ça, c'est l'écologie.
Et vous êtes pour ou contre?
Je suis contre.
Mais revenir à l'ancien, ça vous plaît ou pas?
Revenir à l'ancien, ça me plaît, mais je ne suis pas tout seul. Regarde, il y a 8 milliards dans le monde plus. Si 8 milliards, ils vont vivre comment? À l'ancien, il faut faire les choses. Il y a les dirigeants, ils sont là pour leur bien. Et pourquoi? Il y aura toujours un monde des riches, comme je vous ai dit, qui continue à s'enrichir et les pauvres contre la pauvreté. C'est de partout, ça augmente la population. Comme vous avez dit, mais nous, enfin, ils n'augmentent pas le nombre parce qu'ils ramènent des matériels sophistiqués. Ces matériels-là qui remplacent les êtres humains.
Les grues, tout ça.
Wow, beaucoup de choses, il n'y a pas que les grues. Regarde, par exemple, les conteneurs, ramènent des gros conteneurs là, dans la terre. Enfin, toi, tu viens, tu vis de là-dedans, moi je vis de là-dedans. Au lieu d'envoyer deux rippers plus le chauffeur, un camion et machin, une seule machine, et il va faire le travail de 15-20 personnes. Demain, ils veulent faire une machine qui s'appelle aspiration pneumatique. C'est quoi aspiration pneumatique? C'est que, par exemple, il y a des morceaux ici à Saint-Ouen ou vers Stade de France, il y a des petites communes, vous ne voyez plus les poubelles. Enfin, ils ont construit des chaînes, vous jetez votre machin, il va direct à la déchetterie.
Mais ça existe, ça?
Oui.
Ça existe
côté,
déjà
le quartier qui est à côté, c'est comme ça. Il n'y a pas de camion qui collecte là-bas.
Okay.
Enfin, ceux qui sélectivent, il va sélectiver, ceux qui poubelle, il va poubelle. Les OM, ceux qui feraient, ils vont la ferraille, ça va direct.
Mais c'est des cités, des grandes cités.
C'est des grandes cités.
Avec des déchetteries intégrées.
Oui, enfin des déchetteries, il va la chaîne, il va direct faire la déchetterie, c'est fini. C'est souterrain, tout c'est souterrain. Mais il n'y a personne qui ramasse la chaîne. C'est moins cher, c'est gratuit, il ne fait pas la grève, il ne casse pas la tête au patron. Vous avez compris quoi?
Mais parfois, ce qu'ils ne se rendent pas compte, qu'en fait, pour construire ce robot-là, tu as besoin de matériels qui sont très rares. Donc, ils font des mines partout. Ils commencent à dire, ouais, il faudrait peut-être commencer à faire des mines sur la Lune. Tu vois, complètement.
C'est des pour moi, c'est des gens qui veulent acheter le rêve.
Ouais, mais le problème, c'est qu'ils nous gouvernent.
Ouais. Pourquoi ils nous laissent rêver. C'est comme la science-fiction. Ils nous laissent rêver, mais la réalité, c'est ça ce que je vous ai dit, la réalité, c'est sur la terre.
On remercie tous les ouvriers grévistes du site REP Veolia de Gennevilliers et du dépôt Suez de Clichy, ainsi que leurs délégués de la CGT.
On les remercie également, c'était les éboueurs de Suez au dépôt de Clichy, ces éboueurs donc qui ramassent les ordures ménagères à Saint-Denis et à Clichy. Pour terminer cette émission consacrée aux travailleurs et travailleuses des déchets, une interview. Propos recueillis par Alicia Légui et Jeanne Guin, interview d'une éboueuse ripeuse qui travaille dans le secteur privé en Île-de-France et qui nous raconte donc comment elle a découvert ce métier et comment elle a réussi à s'y faire une place.
Donc bonjour, je suis ripeuse en région parisienne voilà, depuis 2019.
À quel poste ?
Je suis ripeuse.
Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste le métier de ripeuse ?
C'est éboueur, tout simplement.
Tu es la personne qui est à l'arrière du camion et qui ramasse les poubelles, les charges ?
C'est ça, exactement.
Est-ce que tu es syndiquée ?
Oui.
À quel syndicat ?
La CGT.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es rentrée dans ce métier ? Est-ce que ça a fait longtemps ? À quelle occasion tu es venue à faire ripeuse ?
Avant, j'étais factrice et je cherchais donc un métier en horaire décalé pour pouvoir travailler tout en étant disponible pour ma famille, tout simplement. Et je suis tombée sur une annonce de l'agence Aquila RH. Par hasard, j'ai postulé à cette annonce. J'ai appris que le hasard fait bien les choses. Ils recherchaient des femmes, tout simplement. Et j'ai été prise. J'ai été reçue un vendredi et j'ai commencé le lundi.
C'était dans la fiche de poste, dans l'annonce, ils voulaient spécifiquement des femmes ?
Pas du tout, non. Même Aquila voulait initialement me proposer un poste de relevage de Linky, un truc comme ça, là. Mais j'ai dit non, moi je cherche un métier qui perdure dans l'avenir. Et j'ai mis vraiment un Reaper sur ma fiche de recherche d'emploi.
Il y a beaucoup d'intérimaires chez Cepur ?
Ouais, il y a la moitié à peu près. Ouais, il y a moitié intérim, moitié embauché, ouais.
Toi, t'as été embauché en bout de combien de temps ?
Au bout d'un an. J'étais embauchée au bout d'un an, ouais. Donc j'ai commencé en août 2019, j'étais embauchée en octobre 2020.
Et qu'est-ce que tu apprécies dans ce métier et qu'est-ce que tu n'apprécies pas ?
Alors ce que j'apprécie déjà, c'est de travailler avec des collègues que j'apprécie. C'est vrai que c'est pour ça que je suis restée aussi, parce que je travaille avec des gens que j'aime beaucoup. Et ce que j'apprécie, bah, c'est les moments de pause, essentiellement, où on peut discuter avec les collègues, rigoler. Ensuite, ce que je n'apprécie pas, honnêtement, c'est un métier que j'apprécie globalement. Voilà, ce que j'apprécie pas trop, c'est la pression qu'on nous met au niveau des chefs et tout, ça c'est un autre débat. Mais voilà, globalement, j'aime bien ce métier-là. Même si on commence tôt, c'est pas toujours facile. Mais justement, la bonne ambiance au sein de l'équipage me permet d'apprécier ce travail encore plus.
Est-ce que tu juges que les conditions de travail sont satisfaisantes dans ce métier ?
Globalement, oui.
En termes de sécurité, en termes, tu parlais de pression qu'on peut exercer sur vous.
Bon, en matière de sécurité, c'est qu'on n'a pas de formation. Moi, j'ai une formation de 5 minutes. On m'a juste montré les boutons, c'est tout. Après, on apprend sur le tas. Je ne pense pas qu'ils cherchent à ce que les gens soient vraiment formés à ce métier-là, en fait. Hein. Après, là, c'est vrai que l'ambiance a quelque peu changé dans le dépôt, où on nous fait bien comprendre que nous, on est les petits salariés, il y a les chefs au-dessus qui peuvent prendre toutes les décisions possibles. Mais quand on commence à s'intéresser à nos droits et tout ça, on se rend compte que la hiérarchie fait marche arrière et qu'on a quand même un minimum de pouvoir encore.
Il y a d'autres femmes dans ton dépôt ?
Oui, nous sommes trois.
Tu travailles souvent en monoripage, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, le monoripage, c'est le fait d'être à deux sur la collecte et non à trois. Donc, je suis en monoripage avec mon collègue. C'est une organisation dont déjà on s'est concerté pour savoir si c'était faisable. Donc, on a commencé, on a vu ce que ça donnait. Comme on a vu qu'on se coordonnait bien, que ça se passait bien, et ben on a élargi ce monoripage sur plusieurs jours. Et grâce à ça, nous avons une prime en plus de notre salaire.
Mais ton collègue que tu évoques, lui, il est chauffeur.
Lui, il est chauffeur, mais il touche aussi une prime. Et grâce à cette prime, il peut descendre de sa cabine pour m'aider à collecter quand il y a beaucoup de bacs, notamment.
D'accord, donc tu collectes toute seule sur la, avec éventuellement le soutien de ton collègue au cas où il y a beaucoup.
Exactement, ouais. Ouais, ouais.
C'est particulièrement plus fatigant, c'est particulièrement difficile ?
Non, parce que justement, on fait un plan de collecte qui me permet d'être moins fatiguée derrière. Donc c'est vraiment un travail coordonné, c'est pas moi qui suis vraiment toute seule derrière et le chauffeur tout seul dans sa cabine. C'est vraiment un travail à deux, où on s'est concerté, on a vu que ça marchait. Donc là ça fait 2 ans qu'on fait du monoripage. Bon, il y a des jours où c'est plus fatigant que d'autres, parce que les collectes, ce ne sont pas des collectes plus petites que les autres. Mais notre façon de travailler fait que ça coule de source, en fait. C'est fluide, donc c'est pas plus fatigant que son état à 3.
Tu disais tout à l'heure que tu n'as pas eu de formation, donc en fait, c'est toi et ton collègue qui vous mettez au point sur comment gérer ces exigences de monoripage, de rythme de travail.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Depuis quand ton métier s'est-il féminisé ?
Eh bien, moi, je dirais depuis 2019. Parce que j'étais la première à arriver dans ce dépôt-là, et donc mon collègue m'a dit qu'il n'avait jamais vu de femme dans ce métier-là, alors que ça fait 20 ans qu'il fait ce métier.
Tu étais la première femme donc à arriver sur ce dépôt ?
C'est ça, avant il était dans d'autres sociétés, toujours dans le monde du déchet, et c'est la première fois qu'il travaillait avec une femme.
Est-ce que tu constates des inégalités, des formes de discrimination sur ton lieu de travail, liées à ton genre, à ton statut de femme ?
Aujourd'hui non, mais effectivement au tout début quand j'ai commencé, qui faisait les plannings prenait beaucoup de pincettes pour me mettre avec des équipages, en précisant bien que je suis une fille, est-ce que ça vous dérange de bosser avec une fille ? Donc c'est vrai qu'au début, il y a des gens qui ne voulaient pas bosser avec moi. Il y en a même qui étaient prévus avec nous, qui ont refusé de partir en collecte parce que j'étais là. Et puis avec le temps, ils se sont rendus compte que ça va, quoi.
Et ils te l'ont dit explicitement ?
Non, ils ne m'ont pas dit explicitement. Mais après, moi, ça ne m'a pas trop dérangé parce que je savais pourquoi j'étais là, en fait. J'étais juste venue pour travailler, gagner ma croûte et pas pour subir ce genre de remarques.
Tu parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais choisi ce métier parce qu'il y avait des horaires qui te permettaient d'être plus présente pour ta famille. Ça aussi, on sait que c'est un enjeu, notamment pour les femmes, de pouvoir trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle parce qu'elles ont plus d'obligations dans leur vie personnelle. Est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre-là ?
Au début, non, parce que j'étais sur certaines collectes où je finissais très tard. Donc le temps de rentrer chez moi, en plus j'étais très fatiguée, le temps de trouver un rythme, c'est quand même pas un métier très facile au début. Donc j'ai dit carrément au gars du planning que si je commence à 5h du matin, c'est pas pour rentrer chez moi à 16h quoi. Dans ma tête c'était à 13h maxi quoi, 13h, 13h30. Donc il a pris en compte mes remarques et m'a changé, voilà. Donc il a fait en sorte que j'ai des horaires à peu près normales. Donc au fur et à mesure j'ai pu concilier à peu près... le travail et la vie familiale.
La promesse de ce métier des boueurs où tu pouvais finir tôt, elle a été tenue ou...
Ça dépendait des jours, mais globalement, oui. Oui. Et puis, comme j'ai dit, je travaillais à la poste pendant 11 ans, donc j'étais habituée à travailler en horaire décalé. Et reprendre un travail où on finit tard dans la journée, c'était clairement pas possible. C'est pour ça que je me suis aussi dirigée vers ce métier-là. Je m'étais dit un jour, quand j'étais encore au chômage, je me suis dit, il me faut un métier où je puisse avoir le même type d'horaire qu'à la poste. Et j'ai vu les éboueurs passer devant chez moi, parce que j'étais en pleine insomnie. Je les ai vus passer. Et puis tout de suite sur Internet, c'est comme ça que j'ai appris que le métier, ça s'appelait Reaper, parce que je ne connaissais pas du tout ce mot avant. Et c'est là que j'ai vu l'offre d'emploi chez Aquila. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça.
D'accord. Dans un autre domaine, donc récemment, chez son employeur, il y a eu une grande grève pour la régularisation des éboueurs sans papier. Et ça a pas mal passé dans les médias et on a découvert à cette occasion que ça avait des pratiques du type emploi conscient de sans-papiers, parfois retenus sur leur salaire pour leur permettre d'être embauchés et donc dissimuler leur statut sans-papiers. Est-ce que tu en as entendu parler ? Quel regard tu portes sur ces autres formes de lutte et de ces autres formes de discrimination ?
J'en ai entendu parler, effectivement. Déjà, je trouve ça lamentable parce que même ces travailleurs sans-papiers sont autant méritants que nous. On fait tous le même métier. Et par contre, ce que je déplore, c'est qu'une enquête n'ait pas été faite dans tous les dépôts. Parce qu'à mon avis, ce genre de pratique doit se faire à peu près partout. Hein. Et il faudrait justement qu'il y ait plus de fouilles. Parce que là, on parle des travailleurs sans papiers qui sont rackettés. Je pense qu'il y a encore d'autres gros problèmes comme ça qui peuvent être soulevés.
Est-ce qu'il y a d'autres mouvements sociaux en cours dans ton secteur qui te touchent en ce moment, qui te paraissent importants ?
Bah là, pas à ma connaissance. C'est vrai que le gros mouvement, donc c'était les travailleurs sans papiers, mais hormis ça, j'ai pas plus d'informations là-dessus.
Est-ce qu'il y a des aménagements de l'espace de travail pour les femmes spécifiques chez ton employeur ?
Au tout début, quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de vestiaire pour femmes. Donc je me changeais dans ma voiture. Et là, ils ont créé un espace exprès pour nous. Il y a un vestiaire spécial pour les femmes. Ouais.
D'autres exemples de choses qu'ils ont fait pour acter le fait qu'il y avait des femmes dans ce métier enfin et pour montrer qu'ils le prenaient en compte ?
Non, hormis ça, non, il n'y a rien de particulier.
Est-ce que par exemple, dans ton activité syndicale ou dans les discussions qu'il peut y avoir au travail, les enjeux de genre commencent à être mentionnés ? Est-ce qu'ils vous parlent de ça, des inégalités ? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations autour du 8 mars ?
Rien du tout.
Il y a du boulot.
Il y a beaucoup de boulot, ouais. Les gens ne se parlent pas beaucoup. La plupart des reapers ne viennent pas au dépôt. Et la plupart des chauffeurs partent soit avant tout le monde ou soit après. Enfin, personne ne prend le temps vraiment de parler des problèmes qu'ils rencontrent. Et donc, je pense que la direction s'empare de ça. Comme ça, les salariés ne peuvent pas se mobiliser, en fait. C'est chacun pour soi. Et comme personne ne se parle, voilà. Donc nous, en travaillant avec plein de gens différents, on a pris conscience qu'il y avait quand même des problèmes pour chaque personne. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais si on n'avait pas travaillé avec plein de gens, on n'aurait jamais été au courant. Donc c'est divisé pour mieux régner, quoi, en fait.
Donc il y a des études en fait qui montrent que ces conditions de travail dites de monorépage dégradent notre santé. Nous, souvent les salariés, on a tendance à accepter des conditions de travail qui dégradent notre santé pour des raisons pécuniaires, notamment des primes associées à ces conditions de travail-là. Je me pose la question, c'est est-ce que si on aurait une rémunération, un salaire plus décent qui nous permettrait de vivre normalement, est-ce que tu accepterais ou tu serais volontaire à une organisation de travail en monorépage ? De ce que j'ai compris, c'est que ça se passe plutôt bien. C'était difficile dans ton intégration en termes de conditions de travail. C'est pas moins difficile aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui tu y es mieux habitué. Et du coup, on palie ça aussi avec l'ambiance de travail, la solidarité dans un environnement de travail difficile. Savoir si nos conditions de travail, nos modes de rémunération seraient plus élevés, est-ce que tu accepterais le monorépage ?
Bah, clairement, non. C'est vrai que le système actuel fait que nous n'avons pas d'heures supplémentaires à la fin du mois. Donc là, on est à peu près au SMIC. Hein. Grâce à ce monorépage, ça nous permet de toucher plus à la fin du mois. Mais effectivement, si on était payé beaucoup plus à la base, on n'aurait pas besoin de ça. Hein. Ça, c'est vrai. Et puis effectivement, ce n'est pas moins difficile qu'au début. Mais comme tu dis, le fait qu'on s'habitue à un mode de travail, on l'accepte mieux.
Vous écoutez Fréquence Paris-Pluriel 106.3 et c'est la fin de cette émission de Zoom Écologie, une émission spéciale consacrée aux travailleurs et travailleuses des déchets, à réaliser à partir d'interviews prises sur le vif, sur des piquets de grève avec des éboueurs, des ripeuses, des représentants syndicaux et des salariés de centres de tri qui nous parlaient de leurs conditions de travail et de leurs revendications. Vous pouvez en apprendre plus sur le réseau éco-syndicaliste en trouvant sur internet leur manifeste éco-syndicaliste. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos podcasts sur zoomecologie.net. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée sur Fréquence Paris Pluriel et à la semaine prochaine.